Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission où on résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de consoles, de PC, de l'industrie. Il y a plein de choses à vous décortiquer aujourd'hui. Un énorme, mais énorme rachat, possiblement le plus gros rachat de l'histoire du jeu vidéo. En tout cas, il va avoir des conséquences dans l'industrie pendant des années et au moins une décennie. Le rachat de ZeniMax, alias Bethesda par Microsoft. Il y a aussi l'annonce du nouveau studio du fondateur principal de Blizzard Entertainment qui a quitté il y a 2 ans, le studio Dreamhaven, dont on va vous parler en long, en large et en travers. On va aussi couvrir plein d'autres petites news de la semaine. Et je me dis que c'est vraiment le bon moment pour avoir lancé, pour être passé en hebdomadaire sur le rendez-vous jeu, parce que bon sang, il y a des choses dont on doit parler. Je m'appelle Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui 2 invités de talent. D'un côté, on a la personne que je décris comme le plus expert des experts de Microsoft et de la Xbox, à savoir Kassim Ketfi. Comment ça va, Kassim ?
Ben, ça va très bien. Oui, je suis un peu tombé sur le bon épisode. C'était pas prévu, mais
c'est ça. C'est non seulement pile le bon épisode. Oh là là, ma lumière ne fonctionne pas sur l'éclairage sur Discord. L'éclairage pour le Twitch. Voilà, maintenant j'ai du beau rose sur mon Kazuya dans le fond, puisqu'on stream en live, comme désormais ça va être le cas régulièrement, le jeudi à midi. Donc, si vous êtes là dans le stream, merci à vous tous de nous suivre. Donc oui, Kassim, t'es un petit peu tombé sur le bon épisode, et comme je le disais, aujourd'hui, quand il y a un sujet sur Microsoft ou sur la Xbox, je me dis, bon, si je suis pas tout à fait sûr d'un point précis, c'est rare, hein, c'est même, ça arrive quasiment jamais, mais si je suis pas tout à fait sûr, je vais sur Twitter et je demande à notre Kassim, et généralement, il me répond avec des sources, un exposé de 30 tweets et tout, c'est merveilleux. Donc, merci d'être avec nous, Kassim. Ce rire enchanteur que vous avez entendu, c'est celui de Fanny Renard. Comment ça va, Fanny ? Tu es notamment Community Manager chez Goblins, un petit studio bien de chez nous. Comment ça va ?
Eh bien, écoute, ça va très bien, merci.
Tu es en forme.
Et toi, comment ça va ?
Écoute, je suis comme toujours un petit peu nerveux parce qu'il y a plein de choses à gérer en même temps. Moi, je n'ai pas l'habitude, je faisais mes podcasts dans mon coin et c'était beaucoup plus simple. Mais très excité par toutes ces news qu'on va décortiquer. Ah.
Je connais ça très bien parce que moi je suis un peu streameuse une fois tous les 6 mois on va dire, et je trouve ça très stressant de gérer la prod, donc merci à toi de m'inviter en ne me demandant pas de gérer cette partie-là.
Ouais, c'est vrai, ça n'a pas l'air, hein, mais c'est un métier quand même de faire tout ouais. Ça, surtout pour l'enregistrement des émissions, c'est plus compliqué que de juste streamer et jouer, mais je vous confirme, c'est pas facile. Et maintenant que j'ai mis toutes mes lumières, je suis à nouveau jaune sur le Twitch, c'est pas grave. Ça va me permettre de remercier les gens qui soutiennent l'émission. Certains d'entre eux sont peut-être en train de nous regarder maintenant. Aujourd'hui, je voudrais remercier ceux qui soutiennent sur patreon.com/rdvjeux, spécifiquement ElPiuPiu, Garant, Glux, Anthony Stéphane, ou Stéphane, il n'y a pas de E au bout, donc on va dire Stéphane, Nicolas Kisgen, De Richter, Cédric, Olivier, Stéphane Vinceau, Kirsten Rochereau et Gemini, merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission, sans lesquels l'émission ne serait simplement pas possible. Donc merci à vous tous de me permettre d'être un vrai podcasteur professionnel, de vivre de ce métier qui est également une passion. C'est grâce à vous que je peux le faire et j'espère que ça vous en profitez avec ces émissions et que du coup tous ceux qui écoutent en profitent. C'est grâce à vous que cette émission est disponible pour tout le monde, donc un immense merci. Bon allez, on va se lancer. Alors, le gros morceau, c'est, comme je le disais, Microsoft qui rachète ZeniMax. Mais il y a quand même un petit peu de news Microsoft avant ça, avec l'ouverture des précommandes. On va en parler juste 2 minutes. Kassim, tu as bien sûr précommandé une Xbox Series X.
Évidemment, j'ai même plusieurs fois précommandé. pour être sûr d'en avoir un qui marche bien.
Commander une série de Xbox Series X.
Exactement. Une série de Series X, c'est ça. Bon, ça n'a pas été trop dur. Il y avait quand même... On reprochait à Sony des difficultés pour les précommandes. C'est vrai que c'était encore un petit peu plus le bordel, mais le jour de la précommande des Xbox, ça a été bien le bordel aussi, il y avait pas mal de demandes, c'est pas facile à organiser ces trucs, mais bon, ça s'est un petit peu calmé maintenant, je crois qu'il y en a un petit peu pour tout le monde hein, des Xbox quand même.
Disons qu'en France, c'est plus simple quand il y a beaucoup moins de demandes, on n'est pas un territoire qui est très favorable à la Xbox d'une manière générale, et du coup forcément, c'est moins le chaos... je crois que la série S, elle a été en stock pendant plusieurs heures. Enfin voilà,
Plusieurs heures, le luxe. Fanny, est-ce que tu t'es lancée, toi, dans les consoles next-gen?
Ah, c'est à moi que tu poses la question. Pardon. Je vais te décevoir. Moi, je suis une joueuse PC. Je crois que je n'ai jamais eu de console du tout. J'hésite à m'acheter la Switch, mais c'est vrai qu'à part la Game Boy, je suis vraiment restée joueuse PC. Et c'est marrant que la Xbox, elle explose autant, parce que pour moi, c'est vrai qu'en France, c'est un peu la console mal aimée. J'ai l'impression de voir la PlayStation partout et la Switch, surtout en ce moment.
C'est sûr qu'on est un territoire, plutôt PlayStation. Hein. Pardon, je te laisse finir.
Non, clairement. Et mais du coup, je découvre que vraiment la Xbox marche très très bien aux États-Unis, d'où voilà toutes les actualités d'aujourd'hui.
Je tiens à préciser que tu vas pas du tout me décevoir en disant que t'es pas très console, parce que en ce moment il y a beaucoup beaucoup de bruit sur les consoles et il y a toute une faction des auditeurs et des fans de jeux vidéo qui sont plutôt PC Master Race et qui sont bien contents d'avoir au moins un invité qui dit rien à faire les consoles. mais on va voir que ça va te parler un petit peu aussi quand même dans une seconde, oui, Kassim ?
Surtout que ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, on a la synchronisation entre la nouvelle génération de consoles et la nouvelle génération des PC, parce qu'il y a Nvidia et AMD qui annoncent des nouvelles choses et tout, donc il y en a vraiment pour tout le monde, quoi.
Ouais, ça fait balle au portefeuille.
Mais tu sais, en fait, le jeu vidéo indépendant, c'est quand même beaucoup sur PC, et vu que moi, c'est un peu mon domaine, c'est vrai que la console, c'est pas forcément. Notre premier choix. Et en plus, je suis directement les personnes qui font le portage des jeux qu'on édite ou qu'on développe chez Goblins. Et c'est vraiment très compliqué, c'est pour ne pas dire une grosse prise de tête. Donc déjà, de poster sur Steam, c'est pas facile. Ensuite, de poster sur GOG, sur Stadia, sur Epic Games, c'est très très compliqué. Mais alors, en plus de faire le portage pour Switch, pour Xbox, pour PlayStation, alors là, je vous raconte pas.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup plus de règles, il y a toutes les certifications, il y a toutes ces étapes de validation qui sont encore plus complexes sur les consoles, et j'imagine bien que c'est pas facile, surtout quand on en gère plusieurs. Donc, quand on est un indé, on se dirige avant tout vers le PC, c'est évident. Ouais.
Exactement.
Juste un petit mot pour ces précommandes. On a beaucoup entendu cette histoire de personnes qui ont acheté une Xbox One X au lieu d'une Xbox Series X, avec une augmentation des ventes de 700% sur Amazon. Il faut préciser quand même que la One X était plus en production depuis un bon moment, qu'elle sera plus en production, qu'elle est plus en vente. Et du coup, la confusion que ça peut amener entre la One X et la Series X, on dit « Ah voilà, les conventions de nomenclature de Microsoft, ça va amener à de la confusion partout. » Alors sur les Series X, pas vraiment, parce que la One X n'existe plus. Les Series S peut-être, parce que la One S existe toujours, mais c'est un petit peu, comme ils s'en vendaient déjà plus, forcément, s'il y a 4 personnes qui se trompent, ça va faire augmenter les ventes de manière exponentielle. Donc bon, c'était marrant comme titre, mais c'est pas forcément hyper réel dans la vérité vraie des précommandes. Bon, le gros morceau, on va s'y attaquer maintenant, c'est cette annonce qui est tombée il y a 2 jours à peine, du rachat de ZeniMax par Microsoft. Alors, ZeniMax, c'est quoi ? Vous connaissez peut-être pas le nom, mais ZeniMax, c'est la maison mère essentiellement de Bethesda, qui est évidemment un énorme éditeur, mais c'est pas que Bethesda. Il y a toute une série de studios, notamment les 2 plus importants en plus de Bethesda, je pense, ce sont id Software et Machine Games. Si vous ne savez pas quels jeux ils ont fait, parce que vous ne suivez pas ça de près, alors Bethesda, c'est tous les Elder Scrolls, donc Skyrim et les jeux qui sont venus avant, et les Fallout, il y en a d'autres évidemment, id c'est Doom, Quake, etc., Rage, au moins en partie, Machine Games c'est essentiellement Wolfenstein, les reboots, donc ça fait un gros gros morceau. Le rachat se fait pour 7,5 milliards de dollars, monumental, et évidemment, ça fait de Microsoft, qui était déjà un mastodonte de l'industrie du jeu vidéo, un truc complètement inévitable, non seulement au niveau du matériel et de la plateforme, mais en plus, au niveau des exclusivités et des propriétés intellectuelles, ça leur fait un trésor de guerre et une quantité de studios invraisemblables. Ils en sont à, Kassim, tu pourras me dire, c'est 23 studios aujourd'hui qu'ils regroupent sous les Xbox Studios ?
C'est ça, c'est 22 vraiment vrais studios, entre guillemets, et la branche publishing qui fait des jeux avec les autres développeurs. Mais c'est en tout, c'est 23 le chiffre qu'ils mettent en avant, effectivement, parce qu'ils comptent la branche publishing comme un développeur interne.
Mmh. Alors, du coup, c'est une news hyper méga importante. Je n'oriente pas la conversation, je te demande à toi directement ce que tu penses de cette information et de ce rachat.
Moi, du coup.
Bah oui.
Déjà que t'as mentionné 23 studios, que c'est un chiffre important, mais en plus, il y a certains studios qui ont plusieurs équipes, donc ça renforce encore le truc. Et donc, évidemment, comme tu l'as dit, ça fait de Microsoft vraiment un mastodonte de la production de jeux, et c'était un truc qui leur manquait, mais de façon ultra forte à la fin de la 360 et pendant tout le début de vie, et même pendant toute la vie en fait, de la Xbox One. Ils n'avaient quasiment pas de studio interne, ils n'avaient pas du coup d'exclusivité, et face à Nintendo et Sony, c'était criant. Et depuis plusieurs années, ils ont pris le problème à bras le corps et ils ont décidé d'essayer de le régler, notamment en rachetant des studios à tour de bras. Et ils sont quand même. Enfin, ce qui est le plus impressionnant, finalement, c'est même pas tant qu'ils arrivent à 23 studios, mais qu'ils sont partis de peut-être 4 ou 5 studios, quelque chose comme ça, ils étaient à 4 ou 5 studios en 2018, donc. En l'espace de deux ans, ils sont passés de 5 à 23 studios internes, ce qui fait d'eux le plus gros développeur de jeux au monde, je crois, à équivalence avec Ubisoft, en termes de studios internes.
C'est ça, en niveau de taille, alors Sony n'est pas en reste quand même au niveau des studios, mais c'est sans commune mesure, et les seuls qui puissent être plus ou moins équivalents, c'est effectivement des énormes éditeurs comme Ubisoft. Je crois que même EA n'a pas autant de studios et de jeux, quoi, et d'IP.
Et je rajouterais qu'on a beaucoup retenu ce chiffre de 7,5 milliards de dollars qui est forcément impressionnant, mais moi, il y a un autre chiffre que je voulais retenir, c'est le fait que ça rajoute 2500 employés 2300, donc, chez Microsoft, dans leur branche gaming. Et enfin, c'est pas rien, c'est pas qu'une histoire de claquer un chèque d'un coup pour acheter un studio. C'est aussi derrière augmenter ton nombre d'employés de façon assez importante. Et c'est quelque chose que je pense pas tout le monde n'est prêt à faire. On a beaucoup parlé, par exemple, de Google, de son arrivée dans le marché du gaming. Et c'est typiquement le genre de choses que je n'ai pas l'impression que Google soit encore prêt à faire pour s'imposer dans le gaming avec Stadia, de racheter ce genre de studio, même des studios plus petits, de racheter comme ça des dizaines, des centaines, des milliers d'employés pour avoir une production suffisante interne pour devenir quelque chose d'important dans le marché du gaming. Oui. Pendant longtemps, Microsoft, justement, avec Xbox, on les accusait de ne pas être très sérieux dans le marché gaming. D'ailleurs, pendant longtemps, il y a eu une volonté des investisseurs et de plusieurs analystes de faire revendre la branche Xbox de Microsoft. Et on pouvait se poser la question quand ils fermaient un peu tous leurs trucs grand public et quand ça ne marchait pas très fort, quand ils ont fermé Windows Phone et compagnie. Et on pouvait se poser la question, et à la place ils ont décidé de s'y mettre, et là c'est vraiment si on pouvait encore douter du niveau d'investissement, pour moi c'est le moment où on peut plus vraiment en douter aujourd'hui. Et c'est pas que sur le rachat en lui-même, c'est aussi le fait que le rachat il est annoncé par Satya Nadella, qui est le patron de Microsoft, qui a répondu à des interviews derrière, etc., et que c'est ça place vraiment c'est un rachat dont du coup on entend parler, tu vois, sur les chaînes business. Où du coup ils sont obligés de répondre en temps réel, enfin, on voit le niveau de l'action, tu vois, à côté. C'est vraiment, enfin, ça montre vraiment à quel point c'est quelque chose d'important pour Microsoft. Et la comparaison aussi qui me venait en tête, c'était avec la stratégie de Disney au cours des dernières années d'avoir racheté Lucas et Marvel Studios et la Fox, évidemment. pour agrossir rapidement leur catalogue avant de créer Disney+. Et évidemment, on va en parler, mais l'objectif de tout ça, c'est le Game Pass.
Bah justement, venons-en au Game Pass, parce que c'est vraiment le cœur de ce qui nous intéresse en tant que joueurs. Le Game Pass, du coup, était, je le dis souvent, et on se moque de moi gentiment, je disais qu'il est inévitable et que c'est le meilleur deal depuis des mois, le meilleur deal de l'histoire du jeu vidéo. Bah, déjà, il rajoutait une bonne quantité de jeux EA il y a quelques semaines, une ou deux semaines. Là, il rajoute toutes les IP, tous les jeux Bethesda et ZeniMax en général au Game Pass. Peu de doute qu'ils seront disponibles sur le Game Pass et que les nouveaux jeux seront disponibles le jour même sur Game Pass. C'est comment dire ? Je crois que quand je disais c'est le meilleur deal de l'histoire il y a il y a trois semaines avant qu'on annonce EA et ZeniMax, on pouvait raisonnablement dire ouais, non, bon, c'est pas vraiment pour moi. Mais aujourd'hui, avec tous ces jeux, il est très difficile d'imaginer un joueur qui va, dans tout ce catalogue, à aucun moment de l'année, se dire bah, « il y en a au moins un que je voudrais de tous les jeux qui seront disponibles dans le Game Pass ». Et donc se dire, au lieu de payer, on va dire, allez, 60 euros, 70 euros, peut-être même un peu plus sur PC ou console, bah, je vais me prendre 6 mois de Game Pass. Et ça va me permettre de jouer à ce jeu-là et j'en aurai plein d'autres en plus. Et du coup, une fois qu'il est dans la machine, c'est un petit peu comme Netflix, on prend pour telle émission. Et puis, il est rare qu'on se désabonne. Là, pour le coup, ça devient encore plus inévitable, ce Game Pass. Je sais pas si...
Il est à combien, le Game Pass, du coup ?
Alors, le Game Pass, il est à 10 euros sur PC, pour tous les jeux PC. Et là, il y en aura... C'est un gros catalogue de jeux PC qui va être ajouté. 10 euros sur console. Mais si on veut les deux, avec en plus le service xCloud, donc de streaming de jeux vidéo et d'autres petits bonus, c'est 13 euros pour avoir l'ensemble. Donc, on va dire, le Game Pass D'accord. Ultimate, c'est 13 euros. Mais si tu veux jouer vraiment que sur PC, c'est 10 euros.
Donc, donc c'est ultra intéressant. C'est fou.
On est d'accord, tu vois, si imagine tous ces jeux-là, tout à coup, tu vas t'intéresser au Game Pass. Bon, le seul problème, c'est qu'il faut passer par l'application Microsoft Xbox, qui n'est pas idéale, mais bon, c'est un petit inconvénient pour jouer à tous ces jeux. Je n'ai même pas mentionné Arkane, mais Arkane Studios, France et US...
Oui, j'ai essayé de trouver le bon moment, j'ose pas vous interrompre, mais...
Mais si, vas-y Fanny, sinon...
C'est vrai que pour moi, cette annonce de rachat, le studio qui m'a inquiété, qui m'a intéressé, c'est Arkane, parce que déjà, c'est à Lyon et j'ai plein d'amis qui y travaillent. Et je sais que l'annonce a fait un peu une espèce de bombe dans le studio parce qu'ils n'étaient pas forcément au courant. C'est vrai que c'est un peu les dirigeants qui décident ce genre de choses et en fait, les employés sont les derniers au courant. Et du coup, quand ça se passe, ils sont un peu genre « Ah ok, donc ça veut dire quoi pour nous ? Au secours !» mais voilà, j'espère que ça voudra dire aussi plus de moyens pour les jeux. Je pense que c'est aussi beaucoup ça. C'est que quand il y a des petits studios qui... Enfin, des petits, entre guillemets, petits studios qui se font racheter, ça veut dire plus de moyens. Je sais que moi, à l'époque, quand je bossais chez Ivory Tower, quand c'est devenu Ubisoft Ivory Tower, ça voulait dire aussi plus de moyens, pouvoir faire des jeux plus ambitieux. Donc, j'espère que ce sera ça et non pas à partir d'aujourd'hui, on va s'adapter au public américain. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est Microsoft, Xbox qui dit nous, on veut des jeux qui puissent plaire aux Américains. Du coup, on va pas forcément faire des choses un peu plus originales qui sortent un petit peu des sentiers battus.
Et, je crois qu'avec être sous la houlette de ZeniMax ou être sous la houlette de Phil Spencer, je crois que au pire c'est kiff et à la limite on préfère être sous la houlette de Phil qui lui a l'air d'être un gamer qui aime le jeu vidéo. Et puis après ils ont tellement de studios chez Xbox qu'ils vont avoir des gens qui font des choses différentes. Il y aura de la place pour énormément de styles de jeux différents. Et puis c'est pas uniquement pour le marché américain qui font tout ça. Là, si t'es sérieux à ce point-là, tu veux conquérir l'ensemble du monde. On pourra parler du Japon dans une toute petite seconde. Mais avant de dire ça, il y a quand même une grosse question qui se pose, qui est celle des exclusifs, des jeux exclusifs. Parce que Microsoft disait depuis, on va dire, 2 ans, 3 ans, « Oh, on aime tout le monde, les jeux, c'est bien, comme tout le monde peut y jouer, on est super content que tous les jeux soient partout, machin. » Bon, dans une certaine mesure, ça reste vrai, mais c'était un petit peu la position d'outsider, ou en tout cas de challenger, qui rend plus facile le fait de dire ce genre de choses. Là, j'ai l'impression que ça rigole plus. Clairement, s'ils investissent 7,5 milliards de dollars, c'est pas pour mettre tous les gros jeux exclusifs sur toutes les consoles. Enfin, pardon, tous les gros jeux AAA sur toutes les consoles. Ils ont dit... J'ai plus si c'était Satya Nadella ou Phil Spencer. Ils ont dit, alors, on va... Évidemment, les jeux qui ont déjà des contrats signés, il y a des exclusivités, notamment pour Deathloop et un autre jeu, sur PlayStation 5. Et donc... Ça va être un jeu Microsoft Studios sur PlayStation 5, donc ça va être honoré évidemment dans les mois à venir. Mais si on va un petit peu plus loin, j'ai du mal à imaginer qu'ils sortent le prochain Elder Scrolls ou le Starfield, qui est l'épopée space opéra de Bethesda, justement. J'ai du mal à l'imaginer qu'elles sortent le jour même sur PlayStation 5, en même temps que sur Game Pass. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire d'exclus?
Bah moi je suis pas d'accord pour le coup, mais je sais que c'est, enfin il y a vraiment deux points de vue sur ce scénario qui sont.
Je pense que l'argument inverse se vaut aussi, mais on va voir si t'as les mêmes arguments que moi pour l'argument inverse. Dis-moi.
Alors bah c'est que comme on va partir du même point que toi, c'est-à-dire qu'ils ont dépensé 7,5 milliards de dollars pour acheter Bethesda, et donc ces 7,5 milliards de dollars, il va falloir les rentabiliser. Et il y a deux façons de les rentabiliser. Il y a le long terme, effectivement, avec le Game Pass, qui est, c'est indéniable ce que tu défends, et c'est sûr que ça va jouer, et c'est sûr qu'il va y avoir des exclusivités qui vont sortir de ces studios, qui ne sortiront que dans l'écosystème Xbox, console et PC, du coup. Je pense aussi qu'ils vont vraiment continuer de lancer certains jeux en multiplateforme. Alors déjà, il y a un exemple qui existe, c'est celui de Minecraft. Minecraft existait déjà quand ils l'ont racheté, donc ça n'a pas changé, mais depuis, ils ont lancé Minecraft Dungeons, qui est un spin-off, et il a été lancé sur PlayStation, sur Switch. Donc, on voit que quand une licence était déjà multiplateforme, ils peuvent réfléchir au fait de la laisser multiplateforme. Et je pense que pour des licences aussi fortes que Elder Scrolls, par exemple, ils auraient au contraire tout à gagner à le sortir partout pour rentabiliser au maximum le développement du jeu. Pour en plus... le vendre 80€ sur PlayStation et dire mais enfin pourquoi vous payez 80€ sur PlayStation alors qu'il est gratuit dans le Game Pass sur Xbox.
C'est exactement l'argument contraire auquel je pensais. Tu 80€ ça te donne 8 mois de Game Pass, mais qu'est-ce que tu fais quoi?
Mais si tu veux l'acheter sur PlayStation, bon bah fais-le quand même. Et en plus, enfin pour moi il y a aussi l'argument inverse qui est si le prochain Elder Scrolls il est exclusif à la Xbox, pour moi ça va les joueurs vont sortir leur fourche et leur torche pour dire non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, avant la licence était multiplateforme, pourquoi vous vous mettez à la sortir que sur sur les plateformes Microsoft.
Ça je crois que c'est un petit peu le genre de truc où tu dis ouais les gens vont gueuler un peu mais enfin tu t'en fous, tu vas ramasser le cash, tu les entends pas, tu sais quand t'es en train de nager dans tes piscines de dollars t'entends moins les gens que,
j'ai l'impression qu'il y a un intérêt financier à le sortir sur plusieurs plateformes et en plus un intérêt de marketing, de dire
de communication.
Vous voyez, on est les gentils, on sort nos jeux partout. Regardez, Sony, ils bloquent tout, en plus ils achètent des exclusivités temporaires, c'est les méchants, oh là là, le mal. Nous, on est gentils. Et en plus, si vous venez chez nous, c'est encore moins cher, c'est mieux et tout ça. Mais
ils
sont gagnants-gagnants, quoi.
Quand tu vois le move de Disney avec Mulan qui va sortir sur le Disney+, franchement, je pense qu'ils s'en foutent en fait du bad buzz que ça peut entraîner et du fait qu'il y ait des gens derrière qui puissent dire « Ah, vous faites ça pour la thune » ou quoi que ce soit. En fait, du moment que c'est rentable pour eux, je pense qu'ils n'auraient aucun scrupule à mettre un Elder Scrolls uniquement sur console si ça pouvait leur rapporter. Du moment que le jeu est bon derrière, je pense que... Ils s'en fichent un peu des rageux, en quelque sorte.
Il y a vraiment des arguments dans les deux sens. Moi, celui qui me parle le plus, c'est celui de 80€, si vous voulez, allez-y. Mais d'un autre côté, vous avez ce jeu plus tous les jeux de notre catalogue qui sont innombrables chez nous, avec le Game Pass, qui est disponible un petit peu partout, parce que leur plateforme... Comme tu l'expliques très bien régulièrement, Kassim, c'est pas la Xbox. Leur plateforme, c'est plus la Xbox. C'est le Game Pass et il est disponible dans plein d'endroits. Tu disais dans une vidéo récente, c'est la Xbox bien sûr, le PC par ailleurs, le téléphone Android encore, avec le streaming. Et du coup, le nombre de... entre guillemets, exemplaire de la plateforme, la base installée de la plateforme de Microsoft qui est le Game Pass, elle est démultipliée. Tous les téléphones Android au monde, bon, non, pas tout à fait tous ceux au monde, peut-être, mais ils peuvent jouer aux jeux Microsoft. Et ça va continuer à s'étendre. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quand ça sera disponible, justement, le xCloud, enfin, le streaming, sur les consoles elles-mêmes et sur PC. Mais bon, ça, c'est peut-être une autre question. Ils ont dit 2021, hein, je crois.
Ils avaient dit, pour le PC, ils avaient dit 2020, mais c'était dans une autre vie, c'était en 2019.
Ouais.
Donc,
C'est ça, ouais, peut-être 2021. Mais bon, effectivement, cette question des exclusivités, dans un sens comme dans l'autre, comme tu le dis, Fanny, c'est très possiblement, tu t'en fous des rageux parce que tu ramasses l'argent. Et comme tu le dis, Kassim, faire la comparaison entre 80 euros sur PlayStation et puis tu prends l'argent, si les gens veulent payer 80 euros, tu vas pas dire non, quoi, pour Elder Scrolls 6 ou Starfield. Bon, ceci dit, ça va pas être pour tout de suite. Hein. Oui, vas-y.
On parle beaucoup. Je sais que beaucoup ont eu le réflexe justement de parler de la plateforme, enfin de la guerre entre PlayStation et Xbox et de penser console. Il y a un autre duel qui se profile avec ce rachat. C'est entre guillemets duel partenariat. C'est celui de Steam. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de jeux Bethesda qui sont vraiment PC first entre guillemets, puisque enfin Doom, Wolfenstein, tout ça. C'est des jeux qui se prêtent vraiment bien au PC et qui sont très populaires sur PC. Et donc, ils vont sortir tous Day One donc, dans le Game Pass sur PC. Et ils sortiront probablement aussi sur Steam parce que Microsoft publie ses jeux sur Steam justement à 60, 70, 80 balles. Mais il les sort aussi sur le Game Pass. Et du coup, entre la concurrence d'Epic et la concurrence de Microsoft, c'est pour moi, il y a aussi une analyse à faire sur le cas de Steam autour de ce rachat, parce que vraiment, ils perdent un de leurs gros éditeurs, quoi.
Mmh, effectivement, ouais. Non, il y a plein de ramifications, comme on le disait, c'est un événement un petit peu... C'est un petit peu, dans un autre domaine, la même ampleur que le rachat de ARM par Nvidia, qui change l'industrie tech. Là, ça change un petit peu le paysage vidéoludique, et ça va avoir des conséquences, je disais, sur une décennie, parce que le modèle d'abonnement à la Netflix devient hyper encore plus prédominant parce qu'il risque d'influencer tout le reste de l'industrie. Ça va peut-être prendre du temps, mais ça risque d'avoir des ramifications un petit peu partout. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est super et puis dans 5 ans, on se lamentera parce que c'était le début de la fin pour un certain type de jeu ou... Moi, je ne crois pas trop à ce genre de vision. Les choses changent, mais pas forcément pour le meilleur ou le pire. C'est juste que c'est différent, mais on peut se poser la question. J'ai entendu une analogie que j'ai beaucoup aimée entre la politique de les intentions de Microsoft et de Sony. Microsoft, c'est un petit peu Netflix. Sony, c'est un petit peu HBO. C'est-à-dire qu'ils continuent à tabler sur les gros AAA un petit peu massifs et puis qui ont une sorte d'intention artistique à différents degrés. Hein. Mais j'aime bien cette analogie. Je la trouve assez... je trouve qu'elle fonctionne pas mal. Et puis, on va conclure... Oui, Fanny ?
J'ai réagi trop tard. Je disais, c'est intéressant, j'aime beaucoup cette comparaison. C'est vrai qu'entre HBO et Netflix, c'est un peu la guéguerre, même si Netflix clairement écrase. Il y a Disney Plus qui revient un petit peu.
Justement, Disney Plus, c'est Nintendo, en fait, dans cette comparaison.
Oui, c'est vrai.
Avec les trucs pour les enfants, facile à appréhender, tout ça. Bon, la comparaison se casse la gueule au bout d'un moment, hein, je vous le conseille. Un autre truc qui est important à noter aussi, quand on étudie cet événement, c'est est-ce que Microsoft va... Alors, ils ont dit qu'ils vont encore racheter des choses, qu'ils n'ont pas fini, et qu'on risque d'être surpris par ce qui va se passer à l'avenir. Donc, la question...
C'est quoi la prochaine étape pour toi ?
Justement, tout le monde parle d'un potentiel éditeur japonais. On a beaucoup parlé de Capcom. Selon les rumeurs, Microsoft était prêt à racheter Capcom. Et puis la sortie de Monster Hunter World, qui a cartonné, a sauvé Capcom de la destinée de la revente. Donc, c'était assez... Bon, on ne sait pas si c'est le cas ou pas, mais c'est ce qu'il semble s'être passé potentiellement. On parle de Sega également. Ça serait possible, Sega, moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Je ne sais pas si Microsoft serait intéressé. Encore que Sega, on a tendance à oublier leur bras occidental, qui peut avoir de la valeur aussi. Mais je crois que pour compléter ce portfolio, Microsoft avait effectivement besoin d'un développeur ou d'un éditeur japonais. Il y a quelques noms qui viennent à l'esprit. Les principaux, pour moi, c'est évidemment Capcom, même si ça serait plus cher aujourd'hui. Namco Bandai, Square Enix, ça serait incroyable. Enfin, Namco, ça serait incroyable aussi, hein, je vous rassure. Konami, qui s'intéresse plus trop aux jeux vidéo, mais qui a des IP quand même importantes. Et puis le petit outsider, c'est Platinum, qui donnerait une légitimité japonisante immédiate à Microsoft. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Kassim ? Est-ce qu'il y a une possibilité ? Est-ce que tu aurais un candidat potentiel, une prévision ? Tu n'es pas mauvais sur les prévisions, donc je t'écoute.
Déjà, je voulais juste dire qu'ils ont, dans le rachat de Bethesda, ils ont racheté Tango Gameworks, qui est oui, le Mikami, studio japonais ouais. qui fait de Mikami, qui fait notamment Evil Within. Donc, ils ont déjà, là, ils ont, avec ce rachat, ils ont un petit pied au Japon. Mm. Mais je te rejoins
c'est
sur
Ghost
le fait
Wire,
que je pense
c'est
pas
Ghostwire que... Tokyo, l'autre exclusif. Ouais. Je l'avais oublié, oui, c'est celui-là. Pardon, vas-y.
Mais je te rejoins sur le fait que je pense pas que ce soit suffisant pour Phil Spencer quand il disait qu'il voulait. Un pied en Asie et un pied au Japon, je pense que c'est pas ce petit studio qu'il avait en tête, quoi. Cela dit, sur les cibles potentielles, moi je dirais que quand on regarde les achats précédents qu'a fait Microsoft, on commence à comprendre un petit peu le pattern. C'est-à-dire que déjà, c'est des groupes qui sont privés, c'est-à-dire pas cotés en bourse. Donc par exemple, tout ce qui est Sega, justement, ça appartient à Sega Sammy, c'est une grosse entreprise en bourse. Et du coup, ça veut dire que tu peux pas vraiment négocier dans le secret. Tu vois, tu es obligé de racheter des actions. Mmh. C'est compliqué. Enfin, ça demande beaucoup plus de boulot en gros. Et c'est pas forcément. J'ai pas l'impression que ce soit ce que Microsoft essaye de faire. Et puis, en plus, c'est des groupes qui en général sont branchés à des groupes plus gros de genre de casinos et de trucs comme ça, qui sont des trucs que Microsoft serait obligé de débrancher ou de. Enfin, et souvent, c'est des groupes qui sont pas forcément prêts justement à vendre leur IP. Ils veulent juste. Bah, Konami, par exemple. Ils veulent garder leur IP parce qu'ils les utilisent pour leur machine à pachinko et compagnie. Ouais. On se retrouve un peu dans le cas de Warner, pour nous occidentaux, on se retrouve un peu dans le cas de Warner où Warner a des studios de jeux vidéo, mais ce qui intéresse les gens, c'est la licence Harry Potter, c'est Batman et compagnie, qui auraient continué à appartenir à Warner, même s'ils avaient vendu leur branche jeux vidéo. Et du coup, dans les sites potentiels, donc il faut qu'ils soient privés et pas en bourse. Et il faut qu'il y ait on a l'impression qu'il faut quand même qu'il y ait un historique de partenariat avec Microsoft. On n'en a pas beaucoup parlé, mais Bethesda, ils sont copains comme cochons avec Microsoft depuis super longtemps. En fait, ils ont multiplié les apparences sur à l'E3 sur la scène de Microsoft. Mmh. Donc, faut essayer d'aller voir justement un peu de ce côté-là les studios qui ont un peu qui ont été ouais. un peu potes avec Microsoft.
Faut
peut-être
pas oublier,
Bandai Namco.
Bandai Namco, ouais. Ok.
J'allais dire la même chose. Zut. Ouais.
Bah, qui ont fait beaucoup de reveal day one. Enfin, ils ont été potes avec Microsoft pendant plusieurs années sur leur scène de l'E3 de dévoiler des gros jeux et d'être dans le Game Pass et tout ça. Malgré tout, ça me semble c'est beaucoup trop gros. Et pour moi, je pense qu'ils vont plutôt racheter des petits studios occidentaux type Asobo ou Techland ou des groupes plus petits, quoi.
Ouais. Mais Namco est déjà pas mal implanté en Occident. Du coup, ça pourrait être logique, un choix logique, même si, comme tu dis... ce serait quand même un énorme rachat, mais ça viendrait rajouter au catalogue de Microsoft, donc moi je trouverais ça un choix assez logique. Par contre, là où je comprends pas trop, c'est pourquoi s'intéresser autant au marché japonais en sachant que les consoles marchent très peu en fait au Japon, ils sont tous sur leur téléphone.
C'est pour ça. Pour ça. Imagine, on nous dit dans la chatroom, c'est Poulia qui dit et From Software. Bon, From Software, tu parlais de copains comme cochons, ils sont copains comme cochons avec. Avec Sony, donc ça serait peut-être un petit peu plus difficile. Mais justement, parce que les consoles Xbox se vendent plus au Japon, c'est un gros marché de jeux vidéo. Et si tu mets quelques jeux qui sont indispensables au marché japonais, tout à coup, t'en vends des Xbox. Je pense que...
Alors, moi, c'est pas du tout... Alors, pour le coup, non, je pense qu'ils ne vendront jamais de Xbox au Japon.
C'est pas que pour ça, évidemment, que c'est pour se donner une légitimité un petit
voilà.
peu...
Oui, en Europe.
Bien sûr.
Le marché européen est beaucoup... les jeux japonais pèsent énormément sur le marché européen de jeux vidéo, notamment en France. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, Xbox n'existe pas au Japon et donc n'existe pas dans l'esprit des développeurs japonais. Et donc tous les jeux sortent, même quand Sony ne signe pas des exclusivités, tous les jeux sortent d'abord sur PlayStation, sur Switch et éventuellement un jour peut-être sur Xbox si Phil Spencer va penser à frapper à la porte du studio, quoi, en gros. Donc je pense que la légitimité au Japon, elle est surtout là pour vendre en Europe et en Occident parce que les Japonais sont forts et populaires. Et bien sûr, après, sinon, c'est le cloud directement au Japon, même s'il n'est pas encore lancé là-bas. Je pense que le vrai objectif de Microsoft au Japon, c'est pas de vendre des consoles dans ton salon, c'est de te faire jouer sur ton smartphone.
C'est possible aussi, ouais. Moi, je crois qu'ils n'ont pas abandonné le marché japonais, que tu as toujours moyen de reconquérir et tu dis pas non à essayer de conquérir le marché japonais, mais c'est peut-être pas la première priorité. Ça arrivera ensuite, c'est vrai.
Non, mais c'est pas très... Enfin, ils vont faire mieux. Je pense que la Xbox One, ce serait difficile de faire pire. Mais...
Non,
mais
c'est sûr.
Voilà, mais je pense pas que...
Ouais, moi je crois que l'avantage des consoles, c'est que rien n'est jamais fini, t'as des resets tout le temps, et je te dis pas qu'ils vont vendre des Xbox Series S ou X demain, mais dans 5 ans, si tu te mets à sortir des jeux Bandai Namco, ou enfin, tous, que ce soit ouais. Capcom, Bandai, From, enfin, t'as 1000 raisons de pouvoir vendre des consoles au Japon. Surtout avec des offres bon marché, bon, avec le cloud streaming, bien sûr. Mais si dans 3 ans, la série S, elle passe à 200 euros, ce qui est complètement possible, tu vois, les Japonais, ils ne sont pas philosophiquement, religieusement opposés à l'idée d'acheter une Xbox, tu vois. C'est juste qu'ils n'ont pas de raison de le faire. Mais si tu leur donnes une raison de le faire, ils vont le faire. Alors, ils ne vont peut-être pas détrôner Sony et Nintendo en 3 mois, mais il n'y a pas de, pas de raison que ça ne soit pas possible, quoi.
Est-ce que Microsoft ne va pas devenir trop... Pardon, je te laisse.
Non, vas-y.
Je voulais juste poser la question, savoir si Microsoft n'allait pas devenir trop gros, mais réagir.
Ça, c'est une question.
Moi, je me demandais en fait quelles sont les dernières consoles portables qu'a sorti Xbox. Je me souviens plus bien, mais c'est vrai
Mais Microsoft, ils n'ont jamais fait de console portable.
Ah ouais, mais c'est ça. Mais du coup, pourquoi ils tableraient pas sur un équivalent Switch, un concurrent à la Switch qui pourrait cartonner au Japon, qui pourrait mettre tout le monde d'accord?
Quelque chose de complètement différent, ouais. C'est un autre... À mon avis, ils n'ont pas besoin, ils sont sur les téléphones, tu vois. Bon, ils ne vont pas être sur les iPhones, mais ils sont quand même sur les Android, et ça suffit.
Ce qui serait le plus probable, c'est qu'ils rachètent Nintendo. Non, je déconne. Pas qu'ils rachètent Nintendo, mais par contre, qu'ils signent un gros deal avec Nintendo pour mettre le Game Pass sur la... Enfin, pas le Game Pass, le cloud gaming, plutôt, sur la Switch en app. Mais alors ça, c'est... Enfin, le jour où Nintendo accepte ça, déjà, je pense
que... Oui, on est d'accord.
Jamais un jour, il achète Nintendo, je veux être en vie pour voir ça.
pour voir Internet.
Pour voir Internet pleurer.
Non, mais ce serait... Mais voilà, moi, c'est plus la crainte, c'est est-ce que Microsoft va pas devenir trop gros pour le marché global, quoi, en fait
Ah bah ça, c'est oui, c'est des grandes questions, oui. C'est à plus long terme, mais... Pardon, c'est ce que tu disais?
Bah, en gros, Microsoft, tu l'as dit, ils veulent pousser l'abonnement et créer le Netflix et machin. Et la meilleure façon de faire ça, de forcer un switch du marché, c'est d'être tellement gros, en fait, finalement, que les jeux passent obligatoirement par le Game Pass, tu vois, et d'être à ce point-là imposant. Mais du coup, ce ne serait pas forcément super dingue, ni pour Microsoft, ni pour le reste du marché. En fait, je trouve que la position de Microsoft en tant que challenger, même s'il faut qu'il soit un peu plus fort que sur la génération précédente, je préférerais que Microsoft reste challenger du marché que devienne d'un coup géant. Et enfin, Sony, tu vois, par exemple, ne tient que à la PlayStation. Voilà, c'est compliqué. La santé du marché est compliquée. Et derrière tout ça, il y a aussi la question des triple A. Enfin, du marché des AAA, qui est de la production des AAA avec le prix des jeux et compagnie, qui se posent, qui sont des questions assez complexes. Et donc tout ça, enfin voilà, c'est forcément passionnant, mais aussi un peu dangereux. Enfin, on peut se poser la question, quoi. Je peux comprendre qu'on soit effrayé.
Je crois qu'on n'est pas encore à cette étape, et le problème de ce genre de préoccupation, c'est que c'est tellement spéculatif. Qu'on peut pas savoir. Alors bien sûr, c'est amusant de spéculer, mais qu'est-ce que ça va faire vraiment au marché du jeu vidéo ? On sait pas. Il y a 1000 issues possibles. Est-ce que ça va être positif ou négatif ? Toutes les issues sont crédibles. Pour le moment, c'est plutôt positif, je trouve, pour le consommateur et même pour les studios, d'après tous les retours qu'on en a. Mais oui, qu'est-ce que ça donnera dans 5 ans ? Je sais pas, mais dans 5 ans, le marché sera encore différent et il sera temps de s'en préoccuper.
Est-ce qu'il ne sera pas trop tard ?
Bah, tu sais, le problème de ce genre de préoccupation, c'est que quand tu lances des hypothèses sans raisonnement qui s'appuie sur des preuves tangibles, tu peux tout imaginer. Donc oui, on peut imaginer plein de choses, mais jusqu'à ce qu'on ait des preuves crédibles, je ne vais pas trop... Bon. Surtout que pour le moment, tout va dans le bon sens. Enfin, les choses vont plutôt dans le bon sens. Pas tout, mais plutôt dans le bon sens.
Ce que je trouve fascinant avec le marché du jeu vidéo, c'est pas complètement à propos du sujet, mais c'est un truc que je remarque ces dernières années. Et je trouve ça vraiment cool. Je sais que beaucoup de gens le critiquent. Moi, je trouve ça chouette. C'est de voir qu'en fait, les gros deviennent de plus en plus gros. Mais il y a aussi de plus en plus de petits. En fait, le jeu vidéo devient de plus en plus accessible. Il y a des gens qui font des jeux tout seuls. Et du coup, c'est une espèce de genre d'étirement du marché où bah, voilà, les plus gros, les blockbusters, les voilà, Sony, Microsoft, etc. deviennent vraiment des mégalodontes. Et à l'inverse, on a de plus en plus de petits créateurs. Et ce que je trouve cool, et j'espère qu'on va conserver, comme tu disais, voilà, les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, c'est de conserver cette diversité, en fait, et que les gros n'écrasent pas les petits, qu'on garde cette richesse.
Ouais. Mais je dirais plusieurs choses à ce propos. D'une part, dans la chatroom, on me dit, il y a les petits aiguillonneurs d'arguments qui vont me dire « Ah, tous les retours de studio, c'est positif, c'est faux. » Ok, pardon. L'immense majorité des retours de studio trouvent ça positif. Enfin, les retours qu'on a, hein. Après, il y a peut-être des gens qui ne disent pas, mais dans l'ensemble, c'est quand même très positif. On a eu, je crois, une personne qui disait « Ah non, ça, c'est pas bien pour telle ou telle raison. » Mais le Game Pass a été positif pour une immense... Alors, il y a peut-être des gens qui sont terrifiés et qui n'osent pas dire, c'est possible, mais les retours qu'on a, ils sont quand même dans l'immense majorité positifs. Et une des raisons pour lesquelles j'ai ce point de vue effectivement plutôt positif, c'est exactement ce dont tu parles, Fanny, c'est que la richesse, la diversité du jeu vidéo, du type de projet qu'on a, la possibilité d'exister sur le marché n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Il y a des petits éditeurs qui réussissent à faire leur trou et plus que faire leur trou. On ne compte plus les indés qui réussissent à trouver un public et qui vendent 1, 2, 3 millions de jeux dans un environnement où il y a aussi des AAA monumentaux qui se vendent très bien aussi. Il y a des jeux gratuits qui ont des propositions hyper intéressantes. Enfin, vraiment, je ne dis pas que tout est bien. Et encore une fois, dans cette émission, Dieu sait qu'on parle des aspects négatifs de l'industrie du jeu vidéo. Donc, mais dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de bons signaux en ce moment dans l'industrie du jeu vidéo. Je crois. Cassim est silencieux, il a envie de me contredire.
Dans le chat qui répond aussi, ça a jamais été aussi dur pour les indés de se démarquer, mais c'est vrai que en fait le problème aussi de cette richesse, c'est que on a énormément de nouveaux jeux, de nouveaux studios qui se montent, et du coup pour trouver son public et se démarquer et se faire connaître, ouais, c'est très compliqué.
Ça c'est sûr, mais c'est le revers de la médaille, tu vois, on peut pas dire « Ah, il n'y a pas assez de studios différents », et quand il y en a énormément, bah oui, c'est plus dur de se faire remarquer, c'est évident, mais après...
Pardon, c'est marrant parce que les grands gagnants du Game Pass, effectivement, pour le moment, ça a l'air d'être surtout les indépendants, en dehors des studios Microsoft, ça a l'air d'être les indépendants, puisque, de ce qu'on sait du modèle économique du Game Pass, c'est qu'ils filent en gros un chèque... d'un coup d'un montant fixe pour avoir le jeu pendant X mois sur le Game Pass. Et ça permet d'avoir une entrée d'argent immédiate pour les studios indépendants dont on ont désespérément besoin en général. Puis ça assure en tout cas une partie du coût de production du jeu. Et puis ça leur permet, je pense, en plus d'être mis en lumière, justement, c'est ce que tu expliquais à l'instant, Fanny. D'être vu qu'ils arrivent, voilà, cette semaine, il y a 3 jeux dans le Game Pass, dont ce jeu indépendant. Bah forcément, tu es un peu plus tenté de le télécharger que quand c'est un parmi les 200 jeux qui arrivent sur Steam par jour, quoi.
Non seulement ça, mais on a plusieurs retours de studios indépendants, justement, qui disaient « Notre arrivée dans le Game Pass nous a fait de la pub, et donc ça a augmenté les ventes, même en dehors du Game Pass, parce que tout le monde ne veut pas le Game Pass, évidemment. » Donc, c'est... Alors, comme je disais, peut-être qu'il y en a qui sont cachés, qui sont terrifiés par Microsoft et qui veulent pas se faire voir mal et qui, donc, ne disent rien de leur expérience catastrophique. C'est possible. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être...
Disons que la question qui se pose, c'est surtout le fait que les conditions sont positives maintenant et de savoir, si, encore une fois, si Microsoft impose le Game Pass comme le truc incontournable et que tout le monde est obligé d'y passer, s'ils arrivent dans une position dominante, est-ce que du coup, les conditions sont aussi favorables? C'est un peu toute la question, quoi.
Ouais, je pense qu'on est tout à fait d'accord sur ce point. Écoutez, on a fait une grosse partie sur cette discussion qui valait bien la peine. Je vais donc faire une petite pause pour vous rappeler que l'émission existe grâce à vous et grâce à ceux qui l'apprécient et qui décident de la financer sur patreon.com/rdvjeux. jeu. Le lien est bien sûr dans les notes de l'émission. Donc, si vous souhaitez soutenir l'émission, si vous appréciez le travail qu'on fait, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais si vous appréciez, peut-être allez y jeter un coup d'œil et puis voyez ce que ça peut donner. Ça donne bah, des épisodes sans pub, ça donne des bonus dans une newsletter étendue, etc., etc. Les épisodes, donc, sans même cette petite partie que de promo pour le Patreon, puisque vous êtes déjà abonné, vous avez droit à un flux sans tout ça. Et puis surtout, ça vous donne le plaisir de soutenir l'émission et de faire en sorte qu'elle soit accessible à tout le monde et de me faire vivre. Donc, comme à la grande époque où on allait payer son magazine au kiosque quand on voulait entendre parler de jeux vidéo ou entendre ou lire les jeux vidéo, bah vous pouvez faire ça, sauf que c'est optionnel et que tout le monde peut profiter de l'émission quoi qu'il arrive. Donc, c'est vraiment le moyen, je pense, le plus cool de financer cette émission. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, vous pouvez soutenir sur patreon.com/rdvjeux. Vous pouvez le faire de votre mobile tout de suite, là.
C'est une sorte de Patreon de Patrick Pass, quoi. C'est ça que tu veux dire.
C'est, écoute, presque, sauf que le contenu est accessible même si on ne paye pas. C'est un petit peu le Game Pass qui serait financé par de la pub. En plus, tu vois, pour ceux qui ne veulent pas payer.
Bien sûr.
Donc, c'est encore mieux que le Patrick Pass. C'est Patrick Pass
ça
et Patrick Pass.
En tout cas, tu devrais noter le nom Patrick Pass. C'est vraiment chouette, ça donne envie.
Oui, très très bonne idée.
Est-ce que, si je peux me permettre de rebondir sur ta petite annonce, moi, oui. Je trouve ça vraiment génial, tout ça, ce système de Patreon, de Tipeee, de Kickstarter, de laisser justement le public choisir. Et j'espère que ça va continuer à s'étendre parce que je vois l'impact que ça a, notamment dans le milieu de la BD, notamment pour les séries qui se montent comme ça à partir de rien et qui juste arrivent à trouver leur public comme ça, à se faire connaître et qui arrivent à plaire. Je trouve que c'est vraiment génial, il n'y a pas besoin de passer par un éditeur, de convaincre, de montrer qu'on va être rentable. En fait, juste, on trouve un public à qui on plaît et qui sont prêts à financer. Je trouve ça vraiment génial, j'espère que ça va continuer à fonctionner, à toucher de plus en plus de gens.
Ah, merci, merci. Moi aussi, j'espère que ça va continuer et que les auditeurs vont faire le geste de continuer à soutenir. Donc, un grand merci à ceux qui le font. Je sais qu'il y a plusieurs projets de ce type. Certains d'entre vous soutiennent différents podcasteurs, différents créateurs de contenu. Donc, un grand merci à vous tous. C'est grâce à vous que nous existons. Et c'est vrai que c'est un système qui est quand même très, très cool.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, l'autre grosse news de la semaine, c'est l'annonce de l'ouverture d'un nouveau studio, d'une nouvelle société de jeux vidéo qui s'appelle Dreamhaven, qui a été fondée par Mike et Amy Morheim, qui sont des anciens de Blizzard Entertainment, encore plus que des anciens, puisque Mike Morheim était le fondateur et président de Blizzard Entertainment. Il est parti il y a 2 ans. Ça sent bien le non-compete agreement, qui dure 2 ans. Et non seulement ça, mais les deux studios que sont Moonshot Games et Secret Door sont pleins d'anciens de Blizzard Entertainment. C'est vraiment... même le nom Dreamhaven, c'est le comment on traduit Haven, genre le refuge des rêves, voilà le
non, non Haven,
c'est ouais. Haven pas ah, oui. Haven c'est un petit peu différent. Ah ouais. Le refuge des rêves, en quelque sorte, et il parle dans les annonces de l'importance de partager les mêmes valeurs, d'être sur le même esprit dans la conception de jeu, etc. Il y a, comme je le disais, des anciens de Blizzard, Ben Thompson, Dustin Browder, Jason Chase, il y a plein d'entre eux, Chris Sigaty, tous les grosses têtes des studios, des deux studios donc, sont des anciens de chez Blizzard. Et ça colore évidemment l'existence continue de Blizzard et de l'influence d'Activision d'une manière évidemment importante. Jason, Kassim, je sais que tu suis toi aussi Blizzard de relativement près. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi ?
Je joue surtout à Overwatch. Après, je suis pas un ancien de WoW. Je jouais à Warcraft before it was cool. Tu sais, je jouais à Warcraft 1 et 2, moi.
Donc, les anciens.
Moi, ce qui m'a fait. Alors, évidemment, c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour les fans. En tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller et on verra bien ce que ça donne, a priori. Tant qu'ils ne demandent pas de l'argent en créant un Kickstarter comme d'autres créateurs de jeux peuvent le faire.
On vient de dire du bien du Kickstarter, attention.
T'interromps pour un point extrêmement important. Je me suis immédiatement intéressé à la question du financement et Mike Morhaime et Amy Morhaime ont confirmé qu'ils finançaient la société tout seuls. C'est avec leur fortune et qu'ils financent le truc. Donc, ils n'ont pas pris d'investissement extérieur. Il n'y a pas ni Tencent, ni NetEase, ni qui que ce soit.
C'est eux qui payent les salaires.
C'est eux qui payent les salaires. Alors, en tout cas, je ne sais pas comment ça... Peut-être qu'ils ont...
Ils ne sont pas très nombreux.
Ils sont une quarantaine avec les deux studios, et puis ils vont recruter des gens. Mais Kassim, continue.
Juste parce que moi, la seule crainte que j'avais, dans l'annonce, qui me faisait un peu peur, c'est le côté « Alors on se crée et en plus on va direct lancer deux studios, deux jeux, puis dans 3 mois on rachète Microsoft. Quoi. C'est un peu le côté calmez-vous, faites un jeu. Se lancer directement avec deux studios, je trouvais ça assez ambitieux de leur part pour un nouveau studio justement, quand on sait justement que c'est quand même compliqué de se lancer, de créer un jeu, etc. C'est des gens, ils savent très bien ce qu'ils font, je leur fais confiance pour savoir exactement ce qu'ils font, etc. Hein,
donc, c'est ça, ils faisaient dans la pièce d'à côté, quand ils étaient chez Blizzard, ils faisaient des trucs, ils viennent les faire là, tu vois, ils sont équipés, ils ont leur salaire. Je pense qu'il va quand même pas falloir s'attendre à des jeux d'une dimension incroyable, ça va pas être des triple A tout de suite, à mon avis ils vont sortir des jeux relativement modestes au départ, peut-être en espérant bien vendre et puis financer la suite, quoi.
Je me demande dans quelle mesure. Alors, tu as dit qu'ils finançaient la société elle-même par eux-mêmes, mais je me demande dans quelle mesure on ne va pas avoir une situation à la Kojima où un plus gros type Epic pour le PC, Microsoft ou Sony, payé pour être éditeur du jeu, premier jeu, tu vois, et participer au développement du jeu, quoi, et avoir une sorte de Death Stranding-like, quoi, en gros.
Évidemment, ça c'est tout à fait possible, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de Tencent à...
Oui, bien sûr, je répondais pour la création possible d'un AAA, enfin du coup, on peut plus imaginer, s'ils le font totalement tout seul, ce sera plutôt un jeu d'un calibre d'un jeu indépendant, s'ils le font en partenariat avec un gros nom derrière... même si c'est leur premier jeu, ça peut être plus rapidement un AAA ou un jeu un peu plus ambitieux. Quoi.
C'est sûr. Moi, je me demande qui d'autre de chez Blizzard va aller les rejoindre. Il y a 3 noms à surveiller. Jeff Kaplan de chez Blizzard, Tom Chilton et Corey Stockton, qui, à mon avis, sont les 3 historiques qui sont encore chez Blizzard. Il y en a peut-être un ou deux autres. Samwise Didier, éventuellement. Il y en a quelques-uns. Je crois que Frank Pierce est encore chez Blizzard. Mais c'est un opérationnel, lui, mais bon, on verra ce qui se passe. Je veux quand même mentionner le fait que c'est pas non plus... on me dit que Tom Chilton est chez Riot depuis longtemps. Non, tu te confonds avec Greg Street, sans doute, Popinou. Je pense que tu confonds avec Greg Street. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire que tout à coup, il faut détester Blizzard. Je crois que, comme je le dis depuis un certain temps... C'est déjà fait pour certains, mais comme je le dis depuis un certain temps, le problème de Blizzard, c'est qu'ils n'ont pas sorti de jeu depuis 4 ans. Donc on ne sait pas si leurs jeux sont bien ou pas, ils n'ont juste pas sorti de jeu. Donc je crois qu'il faut attendre de voir... Bon, y a d'autres problèmes hein, chez Blizzard, et là encore on en a parlé très longuement dans l'émission, mais pour la question des jeux, je crois qu'il faut attendre qu'ils sortent des jeux pour savoir si leurs jeux sont influencés et corrompus par la noirceur d'Activision. On va attendre peut-être l'année prochaine ou celle d'après pour voir Overwatch 2, les Diablo 4 et peut-être même les titres mobiles. Moi, j'attends Diablo Immortal pour voir ce que ça donne. Il y en a d'autres qui vont être annoncés très certainement. Attendons de voir les jeux et jugeons les jeux sur les jeux, pas sur le fait que Activision soit méchant.
Ouais, mais même Overwatch 2, moi, je t'avoue, je suis très sceptique. Je comprends pas comment ils ont pu partir d'un jeu qui était aussi bien... Au départ, enfin, moi, je suis une grosse joueuse d'Overwatch, et les choix qu'ils font après ce gros succès, je les comprends pas. Je trouve ça très dommage. Donc, ouais.
C'est-à-dire, moi, j'attends Overwatch 2 avec impatience. Pourquoi tu dis pas de mal de Papa Jeff Pourquoi t'aimes pas l'orientation PVE, c'est ça?
Bah ouais, moi je trouve que tout l'intérêt d'Overwatch et ce pourquoi ça cartonne, c'est justement le fait de pouvoir jouer à 6 contre 6, quoi, de faire une version plus de lore. Bah je sais pas, en tout cas de ce qu'ils ont annoncé, ça m'intéresse pas tellement. Moi j'aurais été plus partante de continuer de relancer Overwatch comme il est actuellement, de faire davantage de héros. Et limite de faire, si, pour avoir plus de lore, de faire un long métrage. C'est un petit peu dans la mouvance en plus.
Bon, oui, ça aurait été possible, mais d'une part, il y aura 6 héros normalement avec l'arrivée d'Overwatch 2 qui s'incluront dans le multi. Il y aura un nouveau mode de jeu, il y aura des nouvelles cartes. Ils seront également sur Overwatch 1. Donc le truc qu'apporte Overwatch 2, c'est le mode PVE sur lequel j'ai beaucoup de questions. Hein. Ce qu'on en a vu, j'étais pas tout à fait convaincu. Mais
le PVE m'intéresse pas du tout en fait.
Mais si t'intéresse pas, tu joueras au PVP. Il y en aura du PVP. Il va être agrémenté des nouveaux personnages aussi.
Ouais, mais s'ils ont passé du temps sur le PVE, ça veut dire que c'est du temps qu'ils n'ont pas passé sur le PVP.
Ça,
je suis d'accord avec Fanny.
Mais vous êtes tous les deux dans l'erreur parce que je crois que l'équipe d'Overwatch a suffisamment d'argent pour développer du PVE et du PVP.
Ouais. Alors là où suffisamment d'argent, ils auraient fait davantage de héros. tous les joueurs crachent sur ça. Enfin, demandent davantage de héros. Donc,
disons que clairement, ils ont abandonné le Overwatch 1 au moment où ils ont annoncé Overwatch 2. Enfin, le jeu a été mis de côté. Il y a très peu de nouveautés depuis plus d'un an, et du coup, le jeu est en train de mourir de lui-même. Déjà qu'il n'avait pas forcément eu une très bonne croissance après la sortie de jeux comme Fortnite et tout ça. Il a eu une vie un peu difficile après un départ très réussi. Et l'annonce d'Overwatch 2 a un peu fini de clouer le cercueil d'Overwatch 1. Et alors moi je suis entre vous deux parce que je suis très intéressé par le PVE. J'adore les jeux de coop, je recherche les jeux de coop, donc je suis forcément ultra hypé par ça sur Overwatch 2. Mais le fait est que, comme dit Fanny, ils ont clairement laissé de côté la version PVP d'Overwatch 1, et je suis assez d'accord que du coup, rétrospectivement, ils auraient peut-être pu mettre un peu plus l'accent sur le suivi d'Overwatch 1, être meilleur sur le suivi d'Overwatch 1, et plus tard ajouter la partie PVE, la brancher plus tard et la développer sur le côté, quitte à ce que ça prenne plus de temps, mais voilà, cette transition me semble mal réussie pour l'instant de la part de Blizzard.
Bon, il est indéniable que clairement, je pense qu'ils voulaient sortir Overwatch 2 pour relancer la machine plus tôt, ça, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Mais d'un autre côté, ce qui est marrant, c'est que Blizzard a décidé, bon, nos jeux ne sont pas prêts. On voulait faire comme ça, on voulait relancer la machine à tel moment, ils auraient voulu sortir Diablo 4 il y a 2 ans, mais ils ne sont pas prêts. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment? On les sort pas prêts, ou est-ce qu'on décide d'attendre, de effectivement faire du mal sur le court terme à nos jeux et à notre communauté, mais pour faire les choses comme il faut? Et donc, les sortir, on l'espère, prêts plus tard. C'est la bonne décision à prendre,
non ? Pour moi, il vaut mieux toujours attendre. Parce qu'un jeu qui sort, qui n'est pas fini ou qui est buggé... Enfin, moi, je me souviens notamment du torrent de haine qu'il y avait avec le Assassin, je ne sais même plus lequel, qui est sorti complètement buggé. Non, enfin, un jeu, il vaut mieux le sortir un peu plus tard et le sortir bien.
Oui. C'est impossible de ne pas être d'accord avec ça, mais il y a aussi une question. Quand on parle de jeu service, c'est la question, je pense, elle est un peu plus compliquée que quand on parle de jeu solo.
Bon, on pourra débattre du cas Overwatch pendant très longtemps. C'était pas le sujet de. Mais je comprends ce que vous dites, mais je crois qu'il y a quand même un petit peu de. On trouve toujours un truc à reprocher, même quand on prend les différentes décisions. Bon, allez, on va avancer. En tout cas, moi, je suis hyper enthousiaste et excité de voir ce qui va se passer du côté de Dreamhaven. J'encourage juste les gens à pas être trop, avoir trop d'attentes sur des jeux hyper ambitieux tout de suite. Mais un truc que je disais, je voulais le mentionner parce que l'idée est importante. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Ce que je disais souvent sur Blizzard, et on va conclure là-dessus, c'est que les développeurs qui sont chez Blizzard, ils étaient dans le monde du développement avant, ils faisaient des jeux avant. Et on n'en entendait pas forcément énormément parler. Ils ne faisaient pas des trucs aussi réussis que chez Blizzard. Et il y a beaucoup de gens qui sont partis de chez Blizzard et qui sont un petit peu tombés dans l'oubli aussi. Combien de jeux on a vu avec des anciens développeurs de Blizzard, combien de titres avaient ces sous-titres et au final étaient très décevants aussi. Et moi, l'impression que j'avais, pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé chez Blizzard pendant quelques années, mais je connais bien la société aussi. L'impression que j'avais, c'est que c'était l'âme de Mike Morhaime qui créait une culture d'entreprise et une méthode de travail et des priorités qui faisaient que les choses allaient dans le bon sens pour les joueurs. Et dans le bon sens, attention, hein, Mike Morhaime, il n'a pas hésité à renvoyer des centaines de personnes déjà bien avant l'influence d'Activision. Donc, il y a des bémols à mettre à tout ça aussi, quand on dit dans le bon sens. Mais vraiment, Mike Morhaime avait une authenticité qui était particulière. Et pour moi, c'était lui qui, de lui que tout découlait dans la société. Donc, à voir s'ils vont pouvoir maintenir ça sans Mike Morhaime. Ça sera, il y a quand même une culture d'entreprise, on verra ce que ça donne, et y compris avec Activision. Mais je suis très curieux de voir si Morhaime va pouvoir recréer ça avec sa nouvelle boîte. Si c'était vraiment de lui que ça venait, ou si c'était autre chose, s'il y avait une autre magie qui se créait chez Blizzard pendant longtemps. Donc, très, très curieux de voir ça. Et c'est pour ça aussi que je m'intéresse tellement à cette annonce, alors qu'il y a des nouveaux studios qui sont annoncés tout le temps. Je ne suis pas du tout aussi intéressé, même s'il m'intrigue, par Bonfire de Rob Pardo, par Secret... c'est pas Secret Door, c'est... le studio Second Dinner de Ben Broad, qui sont eux aussi des anciens de chez Blizzard. Mais là, il y a quelque chose de particulier.
Il y a plein d'exemples aussi d'anciens d'Ubisoft qui ont monté leur studio et qui ont cartonné. Donc, honnêtement, moi je suis plutôt positive à ça. Quand des anciens de gros studios font leur propre truc, en ont marre de bosser sur des gros AAA où ils ont pas forcément, ils sont pas forcément écoutés. Donc, j'ai l'impression que les gens qui ont une grosse expérience comme ça sur des blockbusters, quand ils créent leur propre studio et qui font. Ils suivent un peu leur cœur. En général, on a des beaux résultats. Donc, ouais. Moi, j'ai hâte que Dreamhaven me fasse rêver.
moi aussi. Alors, Nintendo Direct de la semaine dernière, c'était un petit peu le Monster Hunter Direct. Il y avait Monster Hunter Rise, qui est un peu un Monster Hunter classique qui arrive sur Switch, et Monster Hunter Stories 2, que je connais pas bien, la série Stories. C'est un petit peu plus narratif, un petit peu Pokémon, à la limite, je crois. Il y a aussi l'arrivée de Ori and the Will of the Wisps sur Nintendo Switch. On parlait des jeux Microsoft édités sur d'autres plateformes. Comme disait Kassim, on en a un exemple ici. Monster Hunter Rise et Stories 2, ça a fait sauter au plafond certains des auditeurs. Je sais pas si c'est votre truc. Bon, toi, Fanny, t'es pas console, donc... mais la Switch, c'est celle à prendre. Hein. C'est un très bon complément.
Ouais, non, mais PC, honnêtement, mais... j'hésite à la prendre la Switch. En plus, Ori, j'ai pas encore eu le temps de jouer aux deux là, donc ça me démange.
voilà, en te baladant, tu pourras avec la Switch. Kassim, toi, t'es un peu plus Monster Hunter ou pas vraiment?
Non, j'avoue que le jeu a l'air vraiment passionnant et très bien reçu et tout ça, mais le contexte me plaît pas trop de la chasse aux animaux, c'est pas forcément mon truc, même si c'est des animaux. Mythique, fantastique, etc. Ça reste encore un petit peu trop concret pour moi.
Donc, t'es également, idéologiquement contre le Pokémon qui enferme des petites bestioles dans des prisons portatives, en fait.
Après, moi, j'ai vu des qui dessinaient l'intérieur des Pokéballs, des espèces de petits paradis.
Ah oui, d'accord, alors ça va.
Tu l'avais vu.
Alors ça va, c'est vrai. Bon, je te dispense de répondre à cette question ridicule, Kassim.
Je veux juste dire que je ne vous recommande pas d'aller voir comment se passe l'intérieur d'un personnage de Fall Guys qui a été dévoilé.
Ah oui, je l'ai vu.
J'ai pas vu ça, il faudra que j'aille
chercher. C'est génial.
C'est officiel, hein, c'est dans le lore. Hein.
D'accord, très bien. Bon, quelques news en vrac. Michel Ancel a annoncé qu'il se retirait du jeu vidéo. Il met fin à sa carrière. Michel Ancel, c'est évidemment Rayman et Beyond Good and Evil 2. Moi qui je blasphème en disant que je trouve que Rayman est très surcoté, mais bon, je vais laisser ce commentaire là.
Ah, du moment que tu dis pas du mal de Beyond Good and Evil, moi ça me va.
Alors, bon, on va pas être copains sur Rayman,
sur
mais
Rayman,
qui est en dehors d'être un très bon jeu de plateforme, était aussi un très bon outil pédagogique, donc qui a fait beaucoup de découvrir le jeu vidéo à des gens de ma génération, donc voilà.
Je comprends.
Le départ de Michel Ancel en lui-même, par contre, c'est plus nuancé, quoi. C'est sur le fait qu'il était sous le coup d'enquête, notamment de Libération. Des soucis de harcèlement, enfin toute la.
Ah bon, alors ça, j'ai pas du tout suivi.
Ancel aussi, je me souviens pas qu'il faisait partie du...
Si, et du coup, justement, enfin, ça n'a pas encore été vraiment.
Avéré.
Ça n'a pas explosé, on va dire.
Et du coup,
il quitte. C'est une bonne façon de prendre la retraite avant de.
Oui, surtout qu'il était à fond sur
Beyond
Good and Evil 2, que c'était un peu. Ouais, bon,
C'est plutôt intelligent de sa part de partir avant. Mais ouais, c'est aussi dans ce contexte-là qu'il quitte la boîte. Hein.
Très bien.
Mais du coup, il laisse aussi son projet Wild, qui est encore en cours, il me semble.
Il a parlé des deux, il a dit les deux tournent indépendamment depuis longtemps, donc tout va bien se passer, vous inquiétez pas, moi je vais aller explorer la forêt. Bon.
Okay. Il retourne Into the Wild.
C'est ça, exactement.
Wild entre de bonnes mains.
Crysis Remastered est sorti et visiblement, c'est pas, surtout avec le ray tracing, c'est pas incroyable. Il y a des gros bugs. No Man's Sky continue ses updates de folie avec Origins qui ajoute des millions de nouvelles planètes encore mieux générées aléatoirement. Et Spelunky 2 est sorti aussi. Alors moi, j'étais pas du tout Spelunky, donc je me suis pas trop intéressé aux deux, mais j'en entends tellement de bonnes choses. Je crois qu'il est pas impossible que je le récupère à un moment parce que c'est un petit peu un jeu mythique et je serais curieux de voir ce que ça donne. Le 2, visiblement, c'est pas la peine de faire le 1 pour jouer au 2. Il est suffisamment similaire, mais il apporte suffisamment de choses pour que les experts disent lancez-vous sur le 2, c'est tout aussi bien. Vous m'interrompez s'il y a certaines choses que vous voulez commenter.
No Man's Sky, j'aurais bien aimé avoir votre avis parce que je sais que le 1 s'était fait pas mal bâché. Enfin, d'ailleurs, c'est pas un 2.
Ah, mais c'est le 1. Non, c'est le 1. C'est les updates au 1 qui continuent. Tous les ans, ils sortent une énorme mise à jour depuis 4 ans. Et là, ça continue. Enfin, c'est plus. Généralement, quand les jeux sortent mal foutus, on dit maintenant, c'est plus le même jeu un an après, tu vois. Là, ils ont fait c'est plus le même jeu. Et puis vraiment, c'est carrément amélioré. Et ils ont continué au-delà de ça. Donc, je crois que s'il y a de tous les jeux mal boupillés qui sont sortis depuis 10 ans, s'il y en a un auquel on peut l'excuser plus qu'aux autres, je crois que c'est No Man's Sky qui a tellement amélioré que bon, ça finit par devenir acceptable, quoi.
Yes.
Certains mentionneraient Final Fantasy XIV, mais bon.
C'est vrai que Final Fantasy XIV, c'était tellement un revamp complet que...
Oui.
Bon.
Non, mais c'est deux très bons exemples de survie d'un jeu qui a mal démarré, quoi.
C'est vrai.
Je suis d'accord. Après, en plus, c'est un studio indépendant, donc c'est beaucoup plus difficile pour eux de le réussir. Et donc, c'est d'autant plus admirable.
Oui, disons que studio indépendant, ils en ont tellement vendu que je crois qu'ils n'ont d'indépendant que le nom aujourd'hui. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent.
C'est pas Square Enix, quoi.
On est d'accord. C'est vrai. Jeff Keighley a annoncé que les Game Awards allaient avoir lieu cette année également dans plusieurs localisations le 10 décembre. Moi, ça me fait toujours plaisir. On aura au moins un vrai moment de fête du jeu vidéo vu qu'on n'a pas eu le 3. L'UFC Que Choisir a porté plainte contre Nintendo pour obsolescence programmée à propos du Joy-Con Drift. Alors, autant je suis d'accord sur le fait que le Joy-Con Drift, c'est un petit peu lamentable, autant obsolescence programmée, c'est un coup de com' de l'UFC Que Choisir. À ce propos, tiens, je voulais mentionner un truc. Quand on parlait de faut-il acheter des consoles nouvelle génération au lancement, moi, j'ai toujours un argument. J'en parlais d'ailleurs sur YouTube, youtube.com/notepatrick. Et je disais, si vous voulez l'acheter dans les 2 ans, autant l'acheter maintenant parce que le prix ne va pas baisser. Donc, si vous avez de quoi, vous la payez maintenant. Ça ne sert pas vraiment à quoi que ce soit d'attendre 18 mois ou 24 mois parce que le prix sera le même. Donc, autant l'acheter maintenant et en profiter pendant tout ce temps. Et certains m'ont dit, mais en fait, il y a un autre problème auquel tu n'as pas pensé, c'est que justement, avec les histoires de Red Ring of Death, avec les histoires de Joy-Con Drift, il faut peut-être attendre pour que ces premiers écueils soient réglés. Et dans un premier temps, je me disais, ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux peut-être. Et puis en fait, en y réfléchissant, on en parlait sur le Discord, et certains ont dit, avec raison, mais tu sais, ces problèmes, ce n'est pas en 6 mois qu'ils sont réglés. Les problèmes qui sont aussi importants de design industriel, ça prend 2, 3, 4, 5 ans à régler. Donc, quoi qu'il arrive, quand tu achètes ta machine dans les 2 premières années, tu es soumis à ce risque. Et pour être parfaitement honnête, les risques de ce type sont relativement minimes. Oui, il peut y avoir des problèmes importants comme ça. Évidemment, on l'a vu avec le Red Ring of Death et le Joy-Con Drift. Mais généralement, ça touche une quantité relativement minime des gens en même temps. Tout le monde a eu un Red Ring of Death, mais ça s'est étalé sur le temps. Et puis, quand c'est suffisamment important pour que ça touche du monde, les sociétés sont tenues de réparer les trucs. Moi, j'ai fait changer ma Xbox 360 à l'époque. Bah, j'en ai eu une nouvelle en quelques jours, une ou 2 semaines. Et puis voilà, j'en avais quand même profité avant. Donc, l'argument de « il y a des problèmes de design », je l'entends, mais je crois que ce n'est pas tout à fait. Si on veut acheter dans les 2 ans, ouais. Je crois que...
Mmh. Je t'empêcherai en donnant encore 2 exemples supplémentaires. Alors déjà, j'ai une PlayStation 4 Pro de première génération qui fait un bruit d'avion.
Ah, ça l'a bien aussi, calmée. Je te confirme.
Ben justement, il y a des révisions, en fait,
c'est sans qu'ils aient changé.
Normalement, il y a des révisions plus récentes de la console qui, justement, enfin, du coup, je n'ai pas pu tester, mais qui sont plus silencieuses. Et la première génération de manette DualShock 4 aussi avait un joystick qui partait en couille rapidement, ouais. le revêtement se barrait. Mm-hmm. Donc il y a quand même des soucis effectivement récurrents de première génération de produits. Je peux comprendre qu'on attende. Et la Switch, il y a déjà eu une révision justement 2 ans après sa sortie. Si je ne me trompe pas, elle est sortie en 2017. Et il y a eu un nouveau modèle qui est sorti en 2019 oui. Qui augmente l'autonomie.
Mais
donc,
si
du
tu
coup,
veux.
Il y a quand même.
Je suis d'accord, mais on parle de problèmes industriels hyper importants. Si tu veux éviter les premiers écueils, oui, mais dans ce cas-là, c'est pas...
Il faut vraiment
attendre
2 ans, par contre.
Voilà, c'est ça, il faut attendre au moins 2 ans, et à ce moment, tu commences à avoir les réductions de prix, donc on n'est plus dans le contexte dont je parlais, ou vraiment dans les 18 premiers mois, tu vois, de toute façon, vas-y, parce que ça va...
Je suis d'accord.
Attendre 2 ans pour avoir la PlayStation 5, ça me paraît énorme.
Bah,
c'est impensable. Si tu loupes tous les premiers jeux qui sortent dessus...
Exactement,
encore
je crois que...
Je suis d'accord, parce qu'au début, il y avait peu de jeux dessus, donc les gens étaient un peu sceptiques. Et encore.
Il y
avait Zelda.
Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que si tu te poses la question, tu te dis, dans les 18 mois, je la voudrais sans doute, parce qu'il y aura des jeux que je voudrais, ou même jouer au même jeu amélioré, etc., bah, tu penses aux 18 mois, tu ne penses pas aux révisions de matériel qui vont arriver dans 2 ans, 3 ans, donc bref. Popinou dit dans la chatroom aussi que ce que Choisir dénonce, c'est aussi le fait que Nintendo est au courant depuis 3 ans et n'a rien fait pour le Joy-Con Drift. Pas tout à fait. Enfin oui, c'est peut-être qu'il dénonce UFC que choisir, mais d'une part, il parle d'obsolescence programmée, ce qui est un tout autre problème et qui, à mon avis, ne s'applique pas. Et ensuite, c'est pas vrai que Nintendo n'a rien fait. Ils sont largement fait prier et ils ont nié pendant un moment, mais aujourd'hui, ils ont admis le problème. Ils s'en sont excusés auprès de leurs investisseurs à la japonaise avec des sumimasen avec les courbes... comment on dit ?
Gominasai.
Voilà.
La courbeur de l'échine.
C'est ça. Enfin, donc, ils ont fait des... Comment on dit quand on se penche en avant ?
Des courbettes.
Ils ont fait des courbettes, voilà. Et puis, ils les vendent, ils les réparent maintenant. Donc, c'est pas vrai. Et encore une fois... Bon,
est-ce qu'ils les réparaient avant cette fameuse plainte que j'ai...
De l'UFC que choisir ? Oui, bien sûr. Ils ont mis 2 ans...
Ils les réparaient déjà ?
Mais oui, ils ont mis 2 ans à activer les programmes de réparation. Et c'était beaucoup trop long, évidemment. Et ils ont nié pendant longtemps. Mais la plainte de l'UFC que choisir aujourd'hui... à mon avis, c'est plus un coup de com' comme ils en font de temps en temps, ce qui n'est peut-être pas forcément une mauvaise chose, mais enfin, bref.
sais pas si ça fait réagir les producteurs de consoles et qui commencent à se dire oulala, il faut qu'on fasse attention et qu'on fasse de la meilleure cam. Moi, je suis pour.
Moi, je dirais que l'UFC Que Choisir aurait dû lancer ce type d'alerte il y a un an et demi, pas maintenant. Maintenant, c'est ridicule. Tu t'arrives après la bataille et tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a un an et demi, ça aurait été très bien.
Mais je trouve que justement.
Internet Explorer qui donne les infos en retard, si vous le suivez, c'est hilarant.
Mais je trouve que, juste, au contraire, la plainte. Enfin, je comprends pourquoi ils veulent. En dehors de l'effet de com, effectivement, si je me fais l'avocat du diable et que j'essaie de défendre leur point de vue, je pense que la raison, c'est que. Il y a un an et demi, Nintendo n'était pas forcément totalement au courant où c'était en train de se développer comme problème. Et bon, bah, justement, ça met du temps à être réparé, donc ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Là, ce qu'ils attaquent, pour moi, c'est le fait qu'aujourd'hui, là, au moment où on parle, le problème est vieux de 3 ans et que Nintendo continue de commercialiser des Nintendo Switch, ils continuent d'en produire, qui ont le problème. Et ils sont conscients que le problème, il va avoir lieu. Et donc, que les gens qui achètent la Switch aujourd'hui, dans 2 ans, ils ont un problème de drift. Et donc, c'est ça où, d'un coup, elle devient programmée, l'obsolescence.
Je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, s'ils te le changent quand tu as un problème de drift, alors oui, il y a des gens qui ne vont pas s'emmerder à te le... Mais quand ils te le changent, tu vois, tu l'envoies en réparation parce qu'il y a, je ne sais pas, 5% ou 10% ou 15% des Joy-Con qui vont avoir un problème de drift, ils te le changent et ils font le calcul que ça leur coûte moins cher de réparer les trucs affectés plutôt que de revoir le design du Joy-Con. Oui, c'est un petit peu couillon. Mais s'ils te le changent, on ne peut pas parler d'obsolescence programmée, quoi. Bref, peut-être.
Ouais, en plus.
Je pense qu'on est d'accord. Après.
La production, ça veut peut-être dire mettre à la poubelle toutes les versions précédentes, arrêter la production, la retravailler, la relancer. C'est peut-être vraiment impactant, que ce soit au niveau de eux, leur budget, et en plus au niveau écologique. Genre, s'ils doivent rappeler tous les anciens modèles pour les remplacer. Il vaut peut-être mieux attendre que les modèles soient problématiques et les remplacer, je sais pas.
Au fur et à mesure, oui. Non, on va attendre la Switch Pro l'année prochaine pour avoir des Joy-Con qui ne driftent pas. Et là, il faudra les racheter la console. Et là, on pourra peut-être parler d'obsolescence programmée, hein, mais c'est un débat un peu plus complexe. Alors, des petites news Xbox et PlayStation vraiment rapides. La Xbox va vous permettre d'installer les jeux avant de les avoir achetés. C'est pas con, moi je trouve ça malin. Vous installez le jeu et puis quand vous l'achetez, il est déjà là. Bon, c'est pratique. La nouvelle application Android de Xbox vous permet de faire du remote play depuis votre console, ce qui veut dire que vous pourrez, sur l'application Xbox, peut-être sur l'application iPhone de la Xbox, jouer depuis votre console, ce qui serait une situation parfaitement ridicule puisqu'on pourra jouer au jeu Xbox depuis notre console sur iPhone, mais pas au jeu Xbox depuis le cloud sur iPhone, alors que c'est exactement les mêmes jeux. Bon, on passe sur cette question. Et Bright Memory va être disponible au lancement de la Xbox série XS. On va l'appeler la Xbox XS, moi ça me paraît bien. Xbox XS, hop, c'est acté, c'est bon. Bright Memory, alors c'est pas Bright Memory Infinite, mais Bright Memory Infinite m'avait bien marqué à la présentation à l'époque de la Xbox. C'est un FPS où on a aussi un sabre qui nous permet de renvoyer des projectiles. Et Bright Memory, c'est le jeu d'avant, c'est développé par une personne, si je ne m'abuse, peut-être qu'il a un peu d'aide. Mais c'est un jeu très bon marché. Mais c'était le jeu d'avant, un petit peu un brouillon, je crois que Gamekult le décrit comme un brouillon de Bright Memory Infinite, et Bright Memory Infinite sortira dans plusieurs mois, sans doute en 2021, mais le premier sera disponible. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Puisqu'on est dans les petits détails, sur PlayStation 5, Demon's Souls fera 66 gigas. C'est intéressant parce que c'est le premier jeu next-gen, vraiment next-gen, dont on a la taille sur disque. Alors, si vous achetez une console à 500 gigas, vous aurez possiblement une idée un petit peu de ce que vont donner les différents jeux. Alors là, c'est 66 gigas. Bon, certains seront peut-être plus gros ou moins gros. Les Spider-Man PlayStation 4 ne peut pas être upgradé en version PlayStation 5 gratuitement. C'est-à-dire que si on a la version PlayStation 4, on n'aura pas la version, je ne sais plus comment il l'appelle, remastered PlayStation 5. On ne l'aura pas gratuitement. Bon, ça fait gueuler un petit peu. Je peux comprendre la chose. Moi, ça m'embête un peu aussi. En plus, les sauvegardes ne seront pas compatibles avec la nouvelle version du jeu. Bon, de toute façon, j'achèterai Miles Morales qui coûte 50 euros. Est-ce que je devrais payer un peu plus pour avoir l'ensemble du jeu, mais sans ma sauvegarde ? Je sais pas sur PlayStation 5. Entre parenthèses, je sais pas si j'aurai une PlayStation 5 parce que j'ai reçu un deuxième mail du magasin où je l'avais précommandé pour dire « C'est le bordel, on sait pas si on aura assez de consoles, on vous dira plus tard, on sait pas trop. » Par contre, la Xbox, j'ai pu la précommander sans problème. Mais je risque de devoir aller au magasin de ma petite ville de province le jour de la sortie de la PlayStation 5 et faire la queue une heure avant pour espérer avoir une des trois qu'ils auront en magasin. Ça va être compliqué. Pardon, Kassim, j'ai asséné toutes les news en même temps et je voulais mentionner aussi le fait que le Xbox Game Pass a désormais 15 millions d'abonnés au lieu des 10 il y a à peine 6 mois. Donc, leur succès est absolument indéniable. Tu voulais mentionner cette news. Donc, voilà, c'est dans les news en vrac et je te laisse la parole maintenant sur tout ça.
Oh, c'était juste un commentaire sur le fait que pour Spider-Man, alors moi j'ai pris la version du coup Ultimate parce que j'avais pas fait la version PlayStation 4, donc du coup moi je suis pas concerné par le problème, je ne vais payer qu'une seule fois le jeu. Mais par contre, en fait ce que je trouve dommage, c'est même pas tant que l'upgrade soit pas gratuite, c'est qu'elle soit même pas proposée de façon payante. C'est-à-dire que si tu as Spider-Man PS4, la seule façon d'avoir Spider-Man Remastered sur PlayStation 5, c'est de payer 80€ pour avoir Miles Morales avec en bonus la version Remastered. Mmh. C'est-à-dire que tu n'as même pas, par exemple,
l'option de payer 30€ pour upgrader ta version PS4 en version remastered sur PS5. Ouais.
C'est énorme.
Ça, pour le coup, je trouve ça dommage de ne pas avoir proposé l'option. Après, faut rappeler aux gens que la version PlayStation 4 fonctionnera sur PlayStation 5. Simplement, vous jouerez à la version PlayStation 4 du jeu.
Oui, on imagine qu'il y aura des temps de chargement réduits et une meilleure résolution ou fréquence d'affichage plutôt. Mais oui, on n'aura pas tout le ray tracing, tous ces trucs-là. Ceci dit, j'imagine que la plupart des gens qui ont aimé Spider-Man sur PlayStation 4 voudront sans doute Miles Morales sur PlayStation 5. Et donc, pour eux, s'ils veulent en plus l'upgrade de Spider-Man, ça coûtera 30€, tu vois. Il y aura certainement des gens qui auraient payé 30€ juste pour avoir l'upgrade, mais pas vouloir Miles Morales, ça serait un comportement un petit peu rare, je pense, si on est aussi fan du jeu qu'on veut. Mais je comprends, oui, c'est vrai. Bon, bah voilà, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode. On a fait un petit peu plus qu'une heure, finalement. J'avais promis une heure à Fanny, on a été au-delà. Je m'excuse platement, mais il y avait tellement de choses à dire.
Mon estomac est en train de grogner. Ah, j'ai faim.
Eh bah écoute, on va s'arrêter là, du coup. Et je vais vous proposer à tous les deux de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. À commencer par Fanny, du coup.
Où me retrouver sur Internet, je suis pas mal sur Twitter, donc vous pouvez me rejoindre sur redfanny-duba. Redfanny était déjà pris. Sinon, sur YouTube, c'est Redfanny aussi. Sur Twitch, vu que je stream une fois tous les 6 mois, comme j'ai dit en début d'émission, c'est Redfanny aussi. Voilà.
Et le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission, comme toujours. Kassim,
oh, c'est gentil.
Où es-tu ?
Ouais, je suis chez moi. Non, pardon, je suis sur Twitter... @notkassim @notkassim et on peut me retrouver sur Frandroid.
Où es-tu si ce n'est pas toi?
Ouais, ben ça c'est longue histoire, mais Kassim était bien fait. Et toujours pris d'ailleurs. Et on peut me retrouver sur Frandroid pour des articles justement sur le gaming et les PC.
On voit une très belle vidéo où tu expliques qui va gagner la prochaine génération de consoles en ce moment sur le Twitch. C'est magnifique. Tu bouges beaucoup les mains, hein? J'ai remarqué ça. Oui, ça m'aide beaucoup à suivre ce que tu dis. C'est très, très bien.
Moi, c'est bien, c'est expressif. Les gens qui bougent les mains, moi, je trouve ça vraiment cool. J'ai vu des trucs un petit peu de communication non-verbale et c'est hyper intéressant. Les gens qui bougent les mains, moi, j'ai envie de les écouter.
Eh bien, c'est exactement ça, dis-je à la chatroom sur Twitch. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Je suis NotePatrick sur Twitch, justement. Je suis également NotePatrick sur YouTube. Si vous voulez vous abonner, aller voir ce que je fais là-bas, eh ben, c'est le moment. Vous pouvez faire ça. C'est pas compliqué, je suis NotePatrick partout, en fait. Vous pouvez également soutenir l'émission sur patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend vraiment 2 minutes, montre en main. Vous pouvez le faire depuis votre mobile. Si vous appréciez l'émission, allez y jeter un coup d'œil. C'est vraiment sympa et moi ça me permet de continuer à faire ce travail. Et puis c'est tout, on se retrouve dans une semaine puisque l'émission est hebdomadaire et on parlera, j'espère qu'il va y avoir des trucs intéressants annoncés au Tokyo Game Show qui commence aujourd'hui, si maintenant. Je ne m'abuse, maintenant, là tout de suite, en ce moment. et puis il y aura certainement un, comme je disais, c'est le bon moment d'avoir passé l'émission en hebdomadaire parce que bon sang qu'il y a des news. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans une semaine seulement pour un nouvel épisode. Bisous à tous, ciao ciao.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.